Alors, en quoi consiste le mystère de la charité? Il faudrait d'abord vous expliquer en quoi il ne consiste pas. C'est beaucoup plus facile que de dire en quoi il consiste. C'est un mot qu'il faut prononcer en tremblant. Parce que c'est là où je reviens à cette anxiété du début. Vais-je pouvoir vous faire comprendre le mystère de la charité? Vous le faire entrevoir. S'aimer les uns les autres, ça nous dit quelque chose. Aimer Dieu, ça nous dit encore quelque chose. Mais c'est si vague. C'est si lointain. Et quand on nous dit, la charité consiste en ceci, que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais Dieu qui nous a aimé le premier, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour vous aider à toucher du doigt le paradoxe de la charité, je vais faire appel à saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, ce fameux chapitre 13, dans la première Épître aux Corinthiens, ce fameux chapitre 13 qu'on a appelé l'hymne à la charité. Et je retiendrai de cet hymne la parole suivante, enfin deux paroles qui sont absolument stupéfiantes, si on les pèse vraiment dans toute leur profondeur, ce qu'on fait rarement. Si je jette mon corps dans les flammes et que je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. Si je donne tous mes biens aux pauvres et que je n'ai pas la charité, ça ne vaut pas la peine. Conséquence, comme saint Paul ne parle tout même pas pour ne rien dire, il faut en conclure qu'on peut, dans certains cas éventuellement, livrer son corps aux flammes et donner tous ses biens aux pauvres sans avoir la charité. Ou sans que ce soit un acte de charité. Alors là, il y a vraiment de quoi nous donner une certaine crainte, une sérieuse crainte, et de quoi nous inviter à réfléchir, à nous asseoir, à calculer la dépense, et à se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire la charité? Et je pense que, de notre part, il y a une faute grave, enfin, autant qu'elle est consciente, autant qu'elle est volontaire, à ne pas se poser une question pareille. À avancer dans la vie comme ça, en ayant entendu des paroles de ce genre, et en risquant ainsi, à tout instant, dans notre vie, de prendre pour des mouvements de charité des démarches qui, matériellement, font peut-être très bonne impression. Qu'est-ce que vous voulez, si on jette son corps dans les flammes ou si on donne tous ses biens aux pauvres, ça fera bonne impression. Vous passerez pour un chrétien héroïque. Eh bien, nous n'avons pas le droit de nous dispenser de cette question. Ai-je la charité pour autant? Alors, quand il s'agit non pas de donner ses biens, tous ses biens aux pauvres, mais de donner un peu de notre superflu, comme dit le Christ à propos de la pauvre veuve qui avait donné matériellement moins que les riches, mais dont il dit elle a donné de sa substance, alors que les autres ont donné de leur superflu, elle a donc donné plus que les autres. Alors, quand il s'agit de gestes par lesquels nous ne donnons guère que notre superflu et non pas de notre substance, où il ne s'agit donc pas de donner tous nos biens et encore moins de jeter notre corps dans les flammes, la question s'impose d'autant plus gravement. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la charité? Ai-je la charité? Alors, pour vous aider à le comprendre, nous conclurons de ce que dit saint Paul, que la charité ne consiste pas à faire du bien. Voilà. Or, c'est précisément vers quoi nous nous réfugions lorsque nous désirons nous rassurer au sujet de la charité. Nous nous précipitons plus ou moins vers des œuvres variées et nous essayons de faire du bien et de nous dire je fais du bien donc j'ai la charité ou je pratique la charité ou j'exerce la charité. On ne peut pas faire beaucoup plus de bien qu'en donnant ses biens aux pauvres et ça ne prouve rien. Non, pourquoi est-ce que ça ne prouve rien? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui risque de manquer? Et qu'est-ce qui manque si on se contente de définir la charité comme le fait de faire du bien aux autres? Alors, pour vous expliquer cela, je vais prendre un exemple du XXe siècle et un exemple du temps de l'Évangile, ces deux exemples n'en faisant qu'un, et se recoupant d'une manière extraordinaire. Donc, il y a quelques années, les petits frères des pauvres, qui s'occupent des vieillards, ayant à fêter un couple de vieillards, pour leurs noces de diamants, a décidé de leur offrir un diamant. Alors, ils se sont cotisés, ils ont fait appel à un bijoutier, et ils ont offert à ce ménage un vrai diamant. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'un diamant, ça coûte cher, hein, assez cher. Et alors, leur geste a provoqué un certain bruit. Les journalistes s'en sont emparés et ont fait l'exégèse de la question et l'analyse de leur geste. Et ils ont dit, ben, ça n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Réfléchissez tout de même un peu, dit le journaliste. Prenons le prix de ce diamant, je ne sais pas combien ça peut coûter, naturellement. Je n'ai pas à connaître ces choses. Avec l'argent de ce diamant, calculons combien de beefsteaks on aurait pu donner aux pays sous-développés. Voilà. Alors, si on réfléchit à ça, si on pense à la souffrance de ceux qui meurent de faim, tous ces enfants qui n'ont pas ce qui leur est nécessaire, eh bien, il faut considérer ce geste des petits frères des pauvres donnant un diamant comme un geste de luxe, comme un geste de riche, comme un geste scandaleux. Voilà. Et je ne sais pas, enfin j'espère vous avoir présenté les choses d'une manière telle que vous soyez un peu ébranlé, si vous n'êtes pas au courant de la question tout à fait, et que vous reconnaissiez que ce raisonnement, à première vue, se tient. Se tient sous cet angle précis, concret. Pendant que je donne un diamant à ces gens et que je me réjouis, et que nous nous gargarisons les uns les autres de la joie de s'offrir de belles choses et de s'aimer les uns les autres, des enfants meurent de faim qui pourraient être soulagés dans leur souffrance par le prix de ce diamant. Voilà toute la force de cette argumentation, et ce n'est pas une chose en l'air, ce n'est pas une chose pour rire. Et quelles que soient les réponses que je pourrais vous offrir, je considérerais l'avoir vraiment terminé, cette réponse, vraiment terminé ma réponse, qu'au moment où j'aurais pu boucler la boucle, et vous convaincre en ce qui concerne même cet aspect de la question que je viens de signaler. À savoir que pendant que nous nous congratulons dans la joie d'offrir de très belles choses à de pauvres gens peut-être, mais enfin des choses de luxe, eh bien d'autres enfants souffrent et meurent de faim. Qu'est-ce que nous avons à répondre là-dessus? Alors je ne vais pas répondre tout de suite sur ce point, sur ce dernier point. C'est pas qui sera la touche finale de l'authenticité de ma réponse. Hein? Si j'arrive pas à vous satisfaire même sur ce point-là, et je dirais surtout sur ce point-là, je n'aurais rien dit de sérieux. Et pourtant, je vais vous aligner un certain nombre de choses. Hein? Première remarque, la plus facile, la plus matérielle, mais enfin, il est toujours bon de se mettre un peu à l'abri. La hiérarchie ecclésiastique du temps, dans la personne du cardinal Felton et du pape Pie XII, prenant acte de cette controverse, a officiellement donné raison aux petits frères des pauvres contre les journalistes qui les critiquent. Bon. En déclarant, ce qui va en effet déjà très loin, on critique les petits frères des pauvres parce qu'ils donnent des diamants aux pauvres. Or, les pauvres, c'est le Christ, et rien n'est trop beau pour le Christ. C'est déjà pas mal. C'est tellement pas mal, comme réponse, que ça nous amène en piqué, si je peux dire, en direct, sur le deuxième exemple, celui qui remonte au temps de l'Évangile, et dans lequel les choses se sont passées exactement de la même manière. Un certain soir, ou certaine journée, où Marie-Madeleine a renversé sur la tête du Christ un flacon de parfum d'un grand prix. D'un grand prix. Alors, vous savez, parfum, diamant, au prix des parfums d'aujourd'hui, que je ne connais pas davantage que celui des diamants. Enfin, je sais que ça se compare, quoi. Surtout s'il s'agit d'un parfum de grand prix parmi les parfums qui sont déjà, je crois, déjà très chers. Alors, ça doit se comparer, ça doit faire à peu près le poids, comme on dit. Et ça fait tellement bien le poids que le geste de Marie-Madeleine a provoqué exactement la même réaction de la part des apôtres, spécialement de Judas, dit Saint Jean, mais des apôtres en général. Enfin, ils se sont laissés un peu influencer. Les apôtres étant tout à fait dans la ligne de l'action. Hein, faut pas s'y tromper, ce n'était pas des contemplatifs du tout. Et donc, ça a provoqué la même réaction et les mêmes critiques que le geste des petits frères des pauvres, les apôtres faisant office en l'occasion de journalistes. Avec l'argent de ce parfum, vous voyez, c'est exactement la même rengaine, si j'ose dire, n'est-ce pas ? On aurait pu faire beaucoup de bien aux pauvres. Et là encore, derrière cette expression « les pauvres », il faut se représenter des choses très concrètes que les apôtres voyaient, touchaient quotidiennement, ces mendiants qu'on voit encore assez facilement dans les pays d'Orient, avec leurs plaies, avec leurs maladies, et avec leur maigreur, plus ou moins squelettique. C'est à cela, ce sont ces images-là qui étaient présentes dans la pensée des apôtres lorsqu'ils se scandalisaient du geste de Marie-Madeleine. Voilà. Alors, de ce que je vous ai dit, il résulte une chose. C'est que Dieu est du côté de Marie-Madeleine et des petits frères des pauvres. Mais pourquoi ? Au niveau où je viens de vous le dire, nous ne l'avons pas encore bien compris. Et le scandale demeure, ce qu'on peut appeler le scandale de la charité. Car la charité a vraiment quelque chose de scandaleux, et la preuve en est dans le scandale provoqué par des gestes de charité éminents ou éclatants, comme celui de Marie-Madeleine ou des petits frères des pauvres, qui à chaque fois, d'ailleurs, en effet, qu'ils reçoivent les vieillards, eh bien, c'est-à-dire, ils mettent le paquet, il y a des tapis, il y a de la vaisselle brillante, enfin, il y a du luxe, il y a des fleurs chères. Et ils ont bien, je vous répète, à l'égard des pauvres, l'attitude que peut-être, en effet, on peut penser que nous aurions si nous savions que le Christ devait venir parmi nous. Et que l'Église continue à avoir lorsqu'elle célèbre la messe dans des ciboires en or sans se scandaliser de cela. Ce que le curé d'Ars lui-même faisait. Pour lui-même, pour, en tant que personne, en tant qu'homme, il ne s'habillait vraiment pas d'une manière très élégante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand on lui a donné un camail, il s'est empressé de le revendre pour donner aux pauvres. Donc il avait bien aussi cette obsession des pauvres. Mais alors quand il s'agissait de célébrer la messe, alors rien n'était trop beau. Allons plus loin. Ça ne va pas encore régler entièrement le problème, mais ça va soulever peut-être un petit peu le lièvre qui se cache, le mauvais lièvre qui se cache derrière l'esprit critique des apôtres et des journalistes. Tous les jours, je suppose dans la bonne ville de Nancy, et toutes les heures peut-être en France, n'est-ce pas, quelques fiancés offrent une bague à sa fiancée, une alliance, quelquefois un bijou plus précieux encore, en or ou en diamant. Et on ne voit généralement pas la belle-mère chrétienne, très chrétienne, n'est-ce pas, même journaliste éventuellement, se précipiter sur le jeune homme en question lui disant « Arrêtez malheureux, avec l'argent de ce diamant, calculez combien de beefsteak, etc. » on pourrait donner. Et figurez-vous que je ne lui reproche pas. Je lui reproche une seule chose, c'est de ne plus trouver normal ce geste lorsqu'il ne s'agit plus des affections familiales, mais d'une affection fondée sur le mystère de la charité du Christ, justement. Là, on peut commencer à soupçonner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien. Et alors, j'en arrive à la clé de l'affaire. Si la charité, c'était de faire du bien, si on pouvait définir la charité comme une volonté de faire du bien, de faire le plus de bien possible, il faudrait donner tort aux petits frères des pauvres et à Marie-Madeleine. Car Marie-Madeleine n'a pas fait un bien extraordinaire à Jésus en lui versant ce parfum. Je ne pense pas que ça ait tellement adouci les souffrances de sa mort que ça ait servi à grand-chose à son sujet. Qu'il aurait été plus efficace pour lui faire du bien. après avoir arraché la première oreille du serviteur, d'arracher la seconde pendant qu'on y était, et de continuer à se battre pour l'empêcher de venir mort. Ça, oui. Ça aurait été vraiment lui faire du bien. Tandis que renverser un parfum pour le préparer à l'heure de sa mort, on voit pas très bien à quoi ça avance. Et naturellement, offrir un diamant non plus. Donc, conclusion, dans la perspective chrétienne, la charité, ça n'est pas de faire du bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais lâcher mon mot, mon grand mot, celui que je tremble de ne pas faire comprendre dans toutes ses profondeurs, mais soyez tranquille, je vais faire tout mon possible pour cela, quitte à reprendre ça la prochaine fois. La charité, c'est un mouvement par lequel on recherche le dialogue avec l'autre. Qu'est-ce que j'appelle dialogue? Le dialogue, ça n'est pas un dialogue au sens théâtral du mot. Il y a de ça, remarquez. Mais enfin, ça n'est pas nécessairement quelque chose de mouvementé, au cours duquel les répliques se croisent, d'une manière plus ou moins pathétique, progressant vers un sommet d'intensité, puis redescendant vers un espèce de dénouement. Non. Ça, au contraire, c'est le signe de ce qu'on pourrait appeler un dialogue difficile, un dialogue pénible. Voyez ? Alors, un dialogue pénible peut être passionnant au point de vue de la littérature, au point de vue de la métaphysique et de la philosophie, c'est un dialogue imparfait. Le dialogue parfait n'est pas pénible. Le dialogue parfait est celui dans lequel il n'y a plus aucune peine, même, aucune peine à se comprendre, aucune peine à s'entendre, dans lequel la transparence est totale. Un dialogue parfait, c'est donc un dialogue dans lequel, en un sens, il n'y a plus rien à dire, de part et d'autre, parce qu'on sait tout. Dans lequel il n'y a plus qu'à se regarder, parce que on sait qu'on s'aime, puis c'est tout. Voilà. Eh bien, ça, ce mystère-là, de deux regards qui se croisent, c'est un mystère essentiellement chrétien. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors c'est ici que je vais lâcher mais d'une certaine manière ma bombe la plus profonde, en tout cas la plus définitive, à cause du mystère trinitaire. Le dialogue, c'est un mystère trinitaire. Dieu pourrait être seul, et si Dieu était seul, il n'y aurait pas cet échange des regards entre deux ou trois personnes. Mais Dieu n'est pas seul. Et alors on en arrive à cette conclusion qui est la fine pointe de mon paradoxe au point de vue dogmatique. Si le mystère trinitaire ne nous était pas révélé, ou tout au moins s'il n'était pas réel, et si nous n'étions pas en fait, dès que nous sommes sous la motion de la grâce, embarqués dans un mystère trinitaire, donc dans un climat trinitaire, alors de nouveau je dirais, il faudrait donner tort aux petits pères des pauvres et à Marie-Madeleine et donner raison aux apôtres et aux journalistes. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, s'il n'y avait pas de dialogue en Dieu, ça pourrait être très agréable au point de vue humain, très gentil de se regarder, hein, comme ça. Ça ne pourrait pas être une valeur divine et absolue et infinie. Parce que nous, humains, le dialogue avec quelqu'un nous apporte toujours quelque chose. Nous apporte toujours un certain enrichissement. Nous ne savons pas tout ce que c'est l'autre. Nous ne possédons pas tous les talents qu'il possède. Même un maître de génie à l'égard de ses disciples, mais il reçoit d'eux énormément. Il reçoit non seulement la joie de transmettre ce qu'il a pu découvrir, mais ceux-ci lui renvoient ce qu'il leur a donné avec une tonalité, avec une couleur, avec une richesse différente de celle qui était la sienne au point de départ. Donc, dans la vie humaine, on peut justifier l'intérêt du dialogue par l'enrichissement qu'il provoque. Seulement, si vous justifiez l'intérêt du dialogue à cause de l'enrichissement qu'il provoque, vous retombez dans la perspective de faire du bien. Et alors vous en arrivez à ça, c'est que si vous ne dites rien de plus, le jour où vous auriez en vous toute la richesse, à vous tout seul, que possèdent les autres, bah, le dialogue n'a plus d'intérêt. Et dans cette condition, on ne voit pas pourquoi Dieu éprouverait le besoin de dialoguer avec nous. C'est ici que nous en arrivons à quelque chose qui est vraiment un abîme. C'est que il y a un lien entre le sens profond de cette vérité « Dieu nous aime » et le sens profond de cette vérité « Dieu est trois ». Si Dieu n'était pas trois personnes, c'est-à-dire s'il n'avait pas, en vertu de sa structure même, ce que je me permettrais d'appeler, d'une manière très irrespectueuse, mais vous comprendrez ce que je veux dire, la manie du dialogue. Si cette manie du dialogue n'était pas une manie divine, voilà ce que je veux dire. Eh bien, Dieu n'éprouverait pas le besoin de continuer avec d'autres le dialogue qu'il y a en lui-même. Ou plutôt, comme il n'y aurait pas de dialogue en lui-même, comme il serait seul, eh bien, il n'éprouverait aucun intérêt à créer d'autres êtres qui seraient des petites miniatures plus ou moins ridicules de ce qu'il est à l'infini. De sorte que, si dans la vie humaine, nous pressentons qu'il y a dans le dialogue quelque chose de plus que ce qu'il nous apporte, voilà, que ce qu'il nous apporte de vérifiable, si je peux dire, on vérifie qu'on a été enrichi. On vérifie que parce que nous sommes des créatures limitées, être deux, être trois, être une famille, c'est plus qu'être tout seul, parce que nous sommes des créatures limitées. Mais on pressent que dans le mystère du dialogue, il y a quand même autre chose que tout ça. Et que même si on était à soi tout seul, aussi riche que deux et trois et une famille et mille, ça vaudrait encore la peine de dialoguer. Pourquoi ? Parce que nous pressentons, sous la motion de la grâce, que cet exercice est le reflet d'un exercice trinitaire. Et c'est ça le mystère de la charité. L'exemple que je prendrai au plan naturel, le plus parlant, le plus simple, le plus frappant, c'est celui d'une mère avec son enfant. Il est évident qu'une mère qui ne se soucierait pas que son enfant soit bien chaussé, bien vêtu, bien nourri, en bonne santé, je dis qu'il ne se soucierait pas. Hélas, il faut dire, une mère qui ne se soucie pas, il y en a. Mais elle n'aime pas son enfant. Que ce soit de sa faute ou pas de sa faute, on ne peut pas dire qu'elle aime vraiment son enfant si elle n'a pas le souci de lui donner ce dont il a besoin, de lui faire du bien. Mais il est non moins évident qu'une mère qui n'aurait pas d'autres soucis, et là encore je ne peux pas mettre la chose uniquement au conditionnel, hélas, je veux dire une mère qui n'a pas le souci, ça existe aussi, de donner à son enfant plus que tout ce dont il a besoin, pour être bien nourri, bien vêtu, bien chaussé, bien élevé, bien éduqué, bien instruit et avoir une belle situation sociale, mais qui n'ait pas le désir de plonger son regard dans le regard de son enfant pour dialoguer, ne l'aime pas. Au sens sacré de ce mot. Au-delà de tout, quand tout a été bien, quand on a fait sa tâche, quand on a fait toutes les tâches matérielles nécessaires, eh bien, il reste le plus précieux, reste encore à venir et est rendu possible par ces tâches matérielles, à savoir se regarder. Et par ce regard, se dire qu'on s'aime. Et c'est le sens, là encore, d'un épisode essentiellement évangélique que l'Église rappelle précisément le soir du jeudi saint, qui est considéré comme la fête de l'amour, la fête de la charité, la fête chrétienne par excellence, le lavement des pieds. Là encore, le but du lavement des pieds consiste très peu, et le Christ prend soin de le dire, à faire du bien. Les apôtres auraient pu à la rigueur s'en passer, aussi bien au plan matériel qu'au plan du symbole. Déjà vous êtes purs. Mais, de la part du Christ, ce geste absolument gratuit avait valeur de dialogue et d'un dialogue d'amour. Et c'est pour ça qu'il leur dit, ce que je vous fais à vous, il faut vous le faire les uns aux autres, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faut vous regarder. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire vous servir, mais pas vous servir en vous tournant le dos. Et en évitant justement cette humilité désarçonnante et bouleversante que le Christ a eue vis-à-vis de ses disciples, mais pour se mettre dans ce que les phénoménologues appelleraient en situation de. dirais, en situation de pauvre regardant un pauvre. Je suis votre maître, il le dit bien, c'est à ce moment-là qu'il insiste. Je suis votre maître. Eh bien, le fait d'être votre maître ne m'empêche pas, ne me donne pas du tout la moindre répugnance à l'égard de cet exercice parce que je vous aime. Puis c'est tout. Alors n'ayez pas, vous, non plus de répugnance à cet égard et apprenez que ce qui est précieux dans ce que vous faites, mais c'est justement pas ce que vous faites. C'est l'attitude que vous prenez vis-à-vis de l'autre. C'est ce regard que le curé d'Ars avait vis-à-vis des mendiants et qui faisait, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, qui ne leur faisait pas la charité, mais que il négociait avec eux. Pourquoi ? Parce que ce qui l'intéressait, mais c'était pas de leur donner à manger, c'était de plonger son regard, qui était le regard de Christ et qui avait ce pouvoir que nous connaissons bien, puisqu'il a suffi à convertir des savants particulièrement coriaces, eh bien, de plonger ce regard dans le leur. Voilà quel était le tourment du curé d'Ars, voilà ce que signifie la charité, voilà ce que signifiait le diamant donné par les petits frères des pauvres, voilà ce que signifiait le geste de Marie-Madeleine, voilà ce que signifiait le lavement des pieds. Voilà ce que veut dire la charité. Bon. En conséquence, la charité ne regarde pas à la dépense. Voilà l'essence de la charité. Ça lui est indifférent de donner un caillou ou de donner un diamant. D'ailleurs, un diamant, c'est un caillou. Mais bah, ce n'est que ça, un peu plus joli. Bah, donc, vous voyez bien, nous sommes dans la gratuité, dans le chant, dans le langage, dans le chant. C'est un chant. Voyez-vous, le lavement des pieds, c'est un chant. Et le parfum répandu par Marie-Madeleine aussi. La matière du geste importe très peu dans l'affaire. Alors, il faut bien que j'en arrive, puisque je vous ai promis que j'en arriverai jusque-là. Nous en viendrons, nous repartirons du point où j'en suis, là, quand nous étudierons le mystère du mal. C'est à partir de là que nous avons la clé et la lumière qui nous permettra d'entrevoir en vertu de quelle folie de charité Dieu a permis le mal. Mais il faut que je termine et que je boucle la boucle comme je vous l'ai promis et que je réponde à cette objection qui semble venir elle-même de l'amour, mais enfin, et les enfants qui ont faim pendant ce temps-là. Je vais vous répondre en terminant l'histoire, parce que elle n'est pas tout à fait finie. Donc, les petits frères des pauvres ont donné ce diamant, et ça s'est su, puisque ça a été critiqué. Ça a été critiqué, mais ça n'a pas eu que cet effet-là. Ça a eu un effet, l'effet que normalement produit toujours le spectacle de la charité, un effet bouleversant. Bouleversement de la part des critiques qui se sont scandalisés, c'est le scandale de cette réalité qui n'est pas de notre monde. Bouleversement aussi de la part d'autres personnes qui, elles, ne se sont pas scandalisées mais se sont laissées toucher, en particulier un certain Châtelain qui avait un château. Châtelain, et qui a été bouleversé par ce geste et qui a dit, madame, je donne mon château. Et voilà ma réponse. C'est que ce problème des pays sous-développés, je vous défie de trouver une solution, une autre solution, que celle que j'appelle la solution de la boule de neige, qui évoque d'ailleurs un film qui a eu son succès, et qui s'appelle Si tous les gars du monde. J'ai des raisons, hélas, de penser que cette solution n'interviendra pas avant la fin du monde. C'est une autre histoire. Vous pouvez partager mon scepticisme qui vient de Jésus lui-même. Jésus savait ce qui est dans le cœur de l'homme. Vous pouvez aussi ne pas le partager. En tout cas, je vous dis que dans l'intérêt même de ceux qui meurent de faim, il n'y a qu'une chose à espérer, c'est que des gestes comme celui-là, des gestes dans lesquels la folie de la charité l'emporte sur toute autre considération de prudence et de calcul et d'économie et de faire du bien, deviennent contagieux. Qu'ils se produisent sous l'effet de ce détonateur. Car un geste de ce genre, c'est un détonateur. C'est le détonateur d'une bombe, effectivement, qui s'appelle la bombe de la charité. Une réaction en chaîne. Et que, bouleversé par ce spectacle, ben, les hommes de plus en plus nombreux deviennent fous à leur tour, de cette manière-là, de cette folie, du parfum de Marie-Madeleine, du lavement des pieds, de la perle précieuse et du diamant. Que nous leur offrions enfin ce spectacle que nous ne leur offrons pas parce que justement nous nous occupons de faire du bien et que nous ne sommes pas brûlés par la charité, et qui stupéfiait les païens au début du christianisme quand ils se regardaient les uns les autres en se disant « Voyez comme ils s'aiment ». Ce qui s'appelle s'aimer. Et qui est très loin, voyez-vous, de ce que nous appelons aimer. Très loin. Alors, je suis à pied d'œuvre pour vous dire ceci. La distance qui sépare votre irritation, inquiétude, anxiété, révolte, mécontentement au sujet du mystère du mal, de l'attitude du gémissement confiant d'un saint Dominique au sujet de ce même mystère du mal, la distance qui sépare ces deux attitudes, la nôtre, toujours prête à murmurer, voilà, le grand mot des Israélites dans le désert, notre attitude toujours prête à murmurer, de celle qui, tout en étant aussi anxieuse, plus peut-être, devant le mystère du mal, ne murmure plus, c'est la distance qui sépare notre conscience du mystère de la charité de ce que la charité est réellement. Je veux dire que mise en présence du mystère de la charité, de la réalité de la charité, de l'explosion et de la folie de la charité, on ne peut plus avoir la force de discuter. Voilà. On est peut-être complètement dépassé, déboussolé, perdu, on n'y comprend plus rien, ça tant qu'on voudra, mais on est obligé de se rendre. On n'a plus la force de murmurer. Seulement, le mouvement à faire, le chemin à faire, le trajet à faire pour passer de l'idée grossière et stupide que nous nous faisons de la charité à l'idée de ce qu'elle est, en fait, dans le cœur de Dieu. Évidemment, c'est un chemin long et difficile. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si ce chemin, vous pouviez l'accomplir en quelques instants, et que vous soyez brusquement mis en présence du cœur de Dieu, vous vous diriez, enfin, en gros, je caricature énormément, mais enfin, pour vous dire, c'est un fou. Évidemment, je n'avais pas prévu ça dans mes calculs, c'est un fou. Je ne savais pas que c'était un fou, et alors on ne peut rien comprendre à sa conduite, parce que ça n'a rien à voir avec ce... C'est une conduite de fou, mais... Évidemment, c'est une folie devant laquelle on n'a plus qu'à fermer la bouche. Voilà. Voyez-vous ? Et je suis prêt à reconnaître que de la part de Dieu, dans un langage humain, c'est une folie d'avoir permis le mal, mais c'est une folie d'amour. Laquelle ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Alors ça, j'essaierai de vous l'expliquer la prochaine fois. C'est ce que vous saurez demain. Vous le saurez demain. Ah, il faut bien que je saurais vous expliquer la prochaine fois en vous montrant comment Dieu était obligé de choisir entre deux perspectives, ne pas céder à son besoin de dialoguer, résister, si je peux dire, à son besoin de dialoguer avec d'autres, et besoin qui, comme je l'expliquerai, n'est pas seulement le souci justement de nous faire du bien, mais je suis obligé d'aller jusqu'à dire de se faire du bien à lui-même, en tant que c'est un peu aussi pour lui qu'il éprouve le besoin de dialoguer. Ah, et cependant ça ne lui apporte rien ontologiquement parlant, dirons-nous, hein, parce que nous sommes thomistes, hein. Ontologiquement parlant, ça ne lui donne rien. Il est infiniment parfait. Il n'a pas besoin de nous et de notre dialogue. Mais dialoguement parlant, ben, ça lui apporte de dialoguer. Et il aime ça. Alors, ou il fallait qu'il renonce au dialogue, ou il fallait, pour que ce dialogue soit sérieux, pour que ça signifie quelque chose, bien que nous ayons une consistance assez effrayante pour pouvoir lui dire zut pour l'éternité. Sinon, ce dialogue avec nous, c'est de la rigolade. C'est pas sérieux. Alors c'est ça que j'essaierai de vous montrer la prochaine fois.